d'emploi. Mode d'emploi.
Et vous êtes sur 106.3, c'est l'émission Mode d'emploi par Attac et des anciens journalistes du PIAF.
Et l'actualité de l'association Attac en ce 9 juillet, une semaine après une action spectaculaire, dit-on, à la Samaritaine samedi dernier, nous allons faire un peu le point de cette semaine assez impressionnante pour les petites sphères des médias et la petite sphère de la haute finance, on va dire. Mais nous allons commencer, bien entendu, par les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Jean-Marc étant bloqué chez lui pour une allergie, il nous a gentiment enregistré ses chroniques comme si nous étions en distanciel alors que nous sommes ici en studio. Mais première chronique de Jean-Marc, schizophrénie ou fumier ?
Une grande question se pose, sont-ils des schizos ou des fumiers ? La République en marche est décidément un creuset intellectuel impressionnant. En plus des phénix de la pensée, comme Schiappa, Guérini, Aurore Berger ou encore Frédéric Vidal, La République en marche dispose au plus haut niveau de ceux qu'on pourrait voir soit comme des schizophrènes, hypothèse optimiste, soit comme des ordures sans limite, hypothèse peut-être plus réaliste. Un des derniers exemples en date est dû au duo éminemment comique composé de Blanquer et Macron. Le président, avec son emphase habituelle, annonce que l'apprentissage de la lecture sera en 2022 grande cause nationale. Comment ne pas être enthousiaste ? Simplement en écoutant le lendemain même le résultat des arbitrages du ministère de l'Éducation nationale qui annonce, après deux années scolaires perturbées par la crise sanitaire, la fermeture d'au moins 900 classes de primaire, 30 par exemple pour la seule ville de Saint-Denis, qui ne connaît aucune difficulté comme chacun sait. L'ignominie ne s'arrête pas là. On apprend 6 jours plus tard que ce même Blanquer se vante d'avoir rendu, entre guillemets, plus de 42 millions d'euros à Bercy pour montrer à quel point il est bon élève. Alors, avez-vous choisi schizo ou fumier ?
Et on poursuit avec les chroniques d'actualité de Jean-Marc qui nous parle, et c'est à la suite, d'une démocratie fantôme.
Notre démocratie est de plus en plus fantomatique. Les élections départementales et régionales ont été un grand succès, largement commenté par des formations politiques et des personnalités faiseuses de moulinets rhétoriques, expliquant toutes que l'abstention est très grave, mais qu'ils ont tout de même gagné et les autres perdu. Au-delà de ce spectacle affligeant des soirées électorales, la réalité fait froid dans le dos. Les chiffres bruts sont hélas très parlants. Et quelques exemples suffisent à souligner le ridicule de la situation. Carole Delga, la mieux élue de France avec 57% des suffrages, a en réalité été élue par 20,9% des électeurs inscrits. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, le trio comique des Républicains, qui s'adossent à leurs résultats pour montrer la légitimité de leurs candidatures respectives, ont été élus avec 16,7%, 15% et 17,8% des électeurs, tout comme le héros muselier en PACA, élu avec 19,7%. Et encore faut-il diminuer ces chiffres, car il ne s'agit que des inscrits. Or, l'un des phénomènes complémentaires de l'abstention est la non-inscription sur les listes électorales particulièrement importante chez les moins de 30 ans, par exemple. Au final, les mieux élus des présidents de région représenteront environ 15% des citoyens. Cela s'appelle donc une faillite totale, mais chut, ne dites rien, dormez bien, la présidentielle arrive.
Et on poursuit avec l'analyse des partis politiques par Jean-Marc. Maintenant, le PS.
Un PS peut en cacher un autre. Il y a le PS grandiloquent qui se vante sur les plateaux de télévision partout le soir des élections, d'avoir gardé toutes ses régions, la plupart de ses départements, et qui dit donc remporter une grande victoire qui lui laisse espérer des choses fabuleuses pour 2022. Sauf que la réalité est un petit peu moins reluisante quand on regarde de près les résultats, là aussi au-delà de la participation. Le PS a en fait perdu 460 élus entre les élus régionaux et les élus départementaux. Donc loin de la victoire, ce serait peut-être une grosse veste.
Et on continue avec ici un glissement progressif peut-être vers le fascisme.
Glissement progressif vers le fascisme. Les fâcheux ont noté la relégation de plus en plus évidente du Parlement sous Macron. Les emmerdeurs droits de l'homiste ont bien vu la montée de la violence d'État contre les mouvements sociaux tels que les gilets jaunes. Les gauchistes ont bien vu la propagande diffamatoire occuper le haut du pavé avec des expressions scientifiquement éprouvées telles que « islamo-gauchiste » ou « Khmer vert ». Cette semaine, ATTAC qui a fait un affichage sur la Samaritaine pour dénoncer l'enrichissement des profiteurs de crise est menacé de plainte par Bernard Arnault et voué à l'interdiction par Le Point. Les signaux se multiplient donc d'un autoritarisme croissant. Il en est un autre très inquiétant, d'autant plus inquiétant qu'il vient d'un parti qui se dit encore de gauche, le Parti Socialiste, qui, après avoir fourni ses cadres à La République En Marche, lui pique ses soi-disant arguments les plus abjects pour tenter de reprendre la tête de ce qu'il reste de la gauche à la France insoumise. Sans évoquer les ratés, qui ont appelé à voter Pécresse pour faire barrage à LFI et que je ne nommerai même pas, le PS distille son venin en colportant les ragots islamo-gauchistes ou en comparant avec des envolées irmoriennes LFI et le Rassemblement National, allant même jusqu'à laisser entendre que le RN « normalisé » entre guillemets serait plus républicain que la France insoumise. Les aristocrates de la Macronie, comme les has-been multiples du PS, se mettent donc d'accord pour taper à coups redoublés sur la France insoumise, tout en laissant relativement tranquille le Rassemblement national. Les premiers pour imposer le duel, leur duel, Le Pen-Macron, dans le but d'assurer la réélection de celui-ci, le PS préférant une fois de plus faire perdre toute chance à gauche, si cela peut lui permettre de reprendre la tête de ce qu'il en reste. Tout ceci rappelle un slogan bien rance et bien dangereux qu'adorent les droites et les sosdem, le fameux « plutôt brun que rouge », un slogan qui a donné de si bons résultats par le passé qu'il faut être, il faudrait être bien délicat pour s'en passer aujourd'hui.
Mais évidemment, l'été arrive, avec lui le retour du Covid, alors Covid Folies.
Dans la grande série Covid Folies, nous avons une suite cette semaine, mais pas la fin, ils ont beaucoup d'imagination. Décidément, on se marre trop bien avec le Covid, surtout lorsqu'on essaie de faire preuve de logique. Dernier exemple en date, la déclaration de Castex, qui commence par faire son laïus martial et menaçant pour dire qu'il faut impérativement se vacciner pour en finir avec le Covid et blablabla et blablabla. Pour finir sur un petit détail, qui est que notre génial gouvernement envisage une troisième injection pour les personnes les plus à risque, car elles seraient plus vulnérables qu'avant. Petite explication des médias. Je rembobine dans ma tête, des personnes à risque vaccinées deux fois seraient plus vulnérables qu'avant d'avoir été vaccinées. N'y aurait-il pas là quelques contradictions? Si l'on écoute la parole d'or de l'exécutif, cela signifierait donc que le vaccin, 1. N'a en rien protégé les personnes en question, 2. Qu'elles seraient plus vulnérables après deux injections qu'avant, ce qui implique alors que le vaccin ne fonctionne pas, et même pire, qu'il aurait diminué les défenses immunitaires des patients. Donc, si l'on récapitule, d'après le gouvernement et les commentateurs des médias, un vaccin qui n'aurait pas fonctionné et qui aurait même amoindri les défenses des gens vaccinés pose un problème. Quelle est la solution proposée? Une troisième injection du même produit. Comprends qui peut.
Comprends qui peut aussi la chronique de Jean-Marc. Hein. Alors, nous allons passer à une autre chronique sur un thème bien différent là, car Gaël va nous parler de justice patronale.
Oui, vous qui écoutez FPP le vendredi soir, vous avez sans doute déjà entendu parler d'accords de libre-échange. Alors ce soir, je ne vais pas en parler, mais presque. On va commencer déjà par vérifier que vous maîtrisez les bases. Pierre, qu'est-ce qu'un ISDS ?
Moi. Un IDS, c'est un mécanisme de règlement des différends entre un État et un investisseur. Il permet à un investisseur d'attaquer une décision d'un État qui menacerait les profits escomptés en s'installant.
Très bien, mon petit Pierre. Et oui, c'est un dispositif qu'on retrouve dans la plupart des accords de libre-échange avec des conséquences politiques et financières. Par exemple, Joe Biden a révoqué récemment le permis de construire pour l'oléoduc Keystone XL, qui devait servir à transporter du pétrole bitumineux de l'Alberta vers le golfe du Mexique. Aussitôt, l'exploitant canadien TC Energy a déclaré qu'il réclamerait 15 milliards de dollars US au gouvernement américain en vertu de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Simplement parce que la décision de Biden, qui est pourtant écologiquement justifiée, prive la firme des profits qu'elle escomptait. La compagnie canadienne va donc poursuivre les États-Unis devant un tribunal arbitral, c'est-à-dire un pseudo-tribunal constitué d'avocats d'affaires, tel que prévu par l'ALENA. On a plein d'accords de ce type entre l'Union européenne et le reste du monde, et on a même des dizaines d'accords bilatéraux similaires entre pays européens eux-mêmes. En particulier, récemment, une affaire a fait du bruit. c'est le conflit entre Acmea et la Slovaquie. Acmea, c'est une entreprise néerlandaise qui avait établi en Slovaquie une filiale qui vendait des assurances maladies privées. Et en 2006, la Slovaquie est partiellement revenue sur la libéralisation du marché de l'assurance maladie et a interdit la distribution de bénéfices générés par ses activités. Donc l'entreprise, qui se trouvait lésée, a lancé contre la Slovaquie une procédure arbitrale en application du traité bilatéral d'investissement entre les Pays-Bas et la Slovaquie pour réclamer des dédommagements. Cette affaire a eu des conséquences. En mars 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que ce type de règlement des différends était illégal, car elle court-circuite les tribunaux de l'Union européenne. En conséquence de quoi, environ 130 traités bilatéraux d'investissement intra-communautaires sont en cours de résiliation. Et vous pensiez qu'on avait gagné, mais c'était sans compter l'activisme des lobbies des milieux d'affaires. L'ONG Corporate Europe Observatory, CEO, vient de dévoiler un document officiel de la Commission qui montre que celle-ci prépare une nouvelle directive visant à renforcer le droit des investisseurs dans le sens de ce que permettaient ces traités bilatéraux d'investissement. Cette directive devrait être rendue publique à l'automne. Alors ce qu'on en sait déjà, c'est qu'il y aura un nouveau tribunal européen exclusivement réservé aux entreprises qui pourrait obliger les gouvernements européens à verser des dédommagements aux entreprises dès lors que des réglementations, notamment sociales ou environnementales, menaceraient leurs profits. Le risque financier pourrait d'ailleurs dissuader les gouvernements de légiférer et de réglementer dans l'intérêt public. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Hulot quand il était ministre. Il a dû reculer face à ce genre de menaces. Le rapport de CEO montre un lobbying intense des grandes entreprises dès l'apparition de l'arrêt de la Cour de justice européenne en 2018. Dans ce lobbying, on retrouve les grandes banques, la Fédération bancaire européenne, des lobbies d'actionnaires, le lobby patronal Business Europe et l'Association des grandes entreprises françaises, l'AFEP. Le message martelé par ces gens-là était toujours le même. La résiliation des traités bilatéraux d'investissement intra-Union européenne, je cite, « laisserait les investisseurs sans protection juridique appropriée sur le marché intérieur de l'Union européenne ». Et, je cite encore, « ce manque de protection pourrait inciter les entreprises de l'Union européenne à investir en dehors de l'Union européenne, ce qui aurait pour effet de réduire les entrées de capitaux dans l'Union européenne et les recettes fiscales ». Bref, des larmes de crocodile et du chantage. L'affirmation selon laquelle la fin des traités bilatéraux d'investissement laisserait des investisseurs sans protection juridique appropriée est un petit peu exagérée. C'est pas comme si les lois et les règlements de l'Union européenne ne protégeaient pas déjà les investisseurs. Mais ils veulent plus. Ce qu'ils veulent, c'est modifier la législation européenne de manière à protéger la rentabilité des investissements selon les mêmes règles que dans les accords de libre-échange, avec les mêmes méthodes de calcul des dommages. Avec ce système, on risque de décourager les gouvernements de réglementer au nom de l'intérêt général. Et donc, à chaque fois que ça ira à l'encontre des intérêts d'acteurs économiques puissants, pour montrer la volonté de ces acteurs économiques, eh bien, je vous cite la déclaration d'Eurochambre, l'Association des chambres de commerce européennes. Les entreprises ne sont pas contre des mesures qui protègent les intérêts qui comptent pour la société dans son ensemble. Mais ces mesures ne peuvent pas être préjudiciables aux investissements des entreprises. Bref, il y a des priorités.
Il y a des priorités. Des priorités, il y en a même sur Twitter. Par exemple, cette semaine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais notre cher président s'est prononcé contre le crop top. À l'approche de l'été, c'était certainement indispensable. Mais ça a été mangé parce que l'actualité altermondialiste due à l'action à la Samaritaine faite par le groupe Action d'Attaque a eu des retentissements qui l'ont fait monter tout en haut de Twitter. Mais pour célébrer l'été, nous allons écouter justement, en réaction à ce cher président de la République, Monsieur Macron, profondément impliqué dans la poursuite des crop tops à travers l'Europe. Nous allons écouter les coquettes qui lui répond en chantant Summer de troupe, qui sera suivi de Hé, mademoiselle.
Chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Ça y est, il fait chaud, enfin c'est l'été. On a sorti les petites robes, les shorts et les décolletés. Rappel annuel pour ceux qui n'auraient pas suivi. On met ça parce qu'on a chaud, pas pour trouver un mari.
Crois-tu vraiment que c'est Cupidon? Tout ça pour plaire à ce qui se cache en dessous de son pantalon. Hey, Mr. Z, n'insiste pas, la réponse est non. Il serait temps que tu retiennes la leçon.
Et on se retrouve sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, pour l'émission Mode d'emploi. Et on est reparti.
On est reparti pour notre actualité de ce 9 juillet où la semaine dernière, nous étions le 3 si je m'abuse, il y a eu à la Samaritaine une action qui a mis de la gouache et un grand panneau sur la Samaritaine marqué « Profiteur de crise » et qui visait précisément le patron de LVMH, Bernard Arnault. Alors, ce panneau et cette gouache ont été mis par le groupe Action de l'association Attaque France. Et nous recevons ce soir deux membres du groupe Action, Justin.
Bonsoir.
Et Yuli.
Bonsoir.
Alors, vous allez peut-être vous approcher du micro ou on partage le micro pour éviter ce petit bruit. Alors, vous allez commencer par nous parler du pourquoi du groupe Action et principalement de son leitmotiv qui est d'attirer l'attention de ce groupe Action, bien sûr, mais surtout de l'association sur l'association Attaque et de l'altermondialisme en général. Et avec un moyen d'action qu'on appelle la désobéissance civile. Alors, c'est quoi la désobéissance civile ?
Alors, la désobéissance civile, c'est le fait d'attirer l'attention de la presse sur un événement qui va avoir une part d'illégalité. Donc, on peut noter des exemples très anciens, mais récemment, on peut, dans les années 90, sur un tout autre sujet, on avait l'association ACT UP qui était très douée pour ça. Et pour l'altermondialisme, on a eu le coup de départ de l'utilisation de cette méthode avec le démontage du McDonald's de Millau par la Confédération paysanne et son représentant qui apparaît à l'époque, José Pauvé. Et derrière, le mouvement altermondialiste s'est emparé de cette méthode. Et aujourd'hui, c'est une méthode qui est utilisée par énormément de groupes en France et dans le monde aussi. Et qui peut, on va dire qu'une action nécessite entre 20 et 2000 personnes.
Voilà. Alors 20 et 2000 personnes, parce qu'il y a une caractéristique à cette obéissance civile, c'est qu'elle est non violente.
Ouais, tout à fait. C'est la caractéristique qui est dans toutes les modes, qui est commune à tous les modes, c'est la non-violence. Alors une non-violence qui peut varier, parce que pour certains, saboter c'est violent, pour d'autres c'est non-violent. Donc on peut avoir des groupes qui ne vont pas avoir la même définition de la non-violence. Mais en tout cas, le fait de ne pas s'en prendre aux personnes reste la caractéristique principale et qui n'est jamais remise en cause, même si on doit rater l'action et qu'on peut la réussir en devenant violent, on rate l'action.
Donc rater une action, c'est ne pas être visible, c'est ça, médiatiquement ?
C'est ça. Alors voilà, c'est ne pas réussir à susciter l'intérêt de la presse. Donc pour ça, on sait que les actions, il y a des moments où elles sont plus ou moins efficaces. Il y a des sujets qui sont plus efficaces que d'autres à certains moments. Là, par exemple, récemment, quand on a visé la Samaritaine, ça avait été inauguré 15 jours avant avec le président, avec le grand patron Bernard Arnault, avec Anne Hidalgo. Il y avait eu un buzz médiatique extraordinaire autour de cet événement. Et en allant chercher cet événement-là, nous, deux semaines plus tard, on a réussi à créer ce qu'on voulait créer, c'est-à-dire modifier un peu les sujets dont la presse parle pendant quelques jours.
Alors bon, là, on parle de la presse aujourd'hui, on va même parler tout à l'heure abondamment de Twitter, mais si on remonte un peu l'histoire sur la désobéissance civile, pareil que certains historiens remontent jusqu'à l'Antiquité, où on a des actes de désobéissance non violente pour faire réagir certainement le pouvoir en général. Est-ce qu'on peut remonter même sur des actions historiques, par exemple ?
Historiquement, pendant la guerre d'Algérie, par exemple, les militants communistes allaient s'installer sur les voies ferrées pour empêcher les trains de partir. Mais c'est un autre mode de désobéissance civile, c'est-à-dire que là, on ne cherche pas à attirer l'action de la presse. On cherche à empêcher un fonctionnement. Aujourd'hui, il y a les deux qui se passent en même temps. Par exemple, N2-Gelände en Allemagne, quand ils vont bloquer un site d'extraction de charbon, il y a le côté blocage du site, mais il y a aussi le côté presse qui accompagne. Là, avec le Parti communiste, c'était vraiment dans des petites villes où des groupes qui n'étaient pas accompagnés de journalistes allaient essayer de retarder le plus possible le départ des trains. Et au XIXe siècle, les saboteurs, donc les premiers du nom, qui lançaient des sabots dans les machines pour les machines qui, en fait, utilisaient le travail de 15-20 personnes et donc créaient un chômage terrible chez les ouvriers agricoles. Les ouvriers agricoles jetaient des sabots dedans. C'est aussi de la désobéissance civile, personne n'est blessé et ont réussi à faire passer son message auprès de l'employeur.
Et les ZAD, les zones à défendre, qui sont parfois avec un petit rien de violence, mais l'essentiel des ZAD, c'est aussi la désobéissance civile, l'occupation d'un lieu, certains squats aussi, squats d'artistes, squats pour tout simplement se loger, ça fait partie de la désobéissance civile ?
Oui, la désobéissance civile, c'est tout ce qui peut être lié à une volonté de modification de la société et qui, pour cela, fait intervenir un caractère illégal.
Alors, pour gérer cette action un peu illégale, l'association ATTAC, qui se bat habituellement pour des grandes idées, comme évidemment le point de départ, c'est promouvoir des transactions, des impôts, des taxes sur les transactions financières internationales, ou évidemment la répartition des richesses. Là, le groupe Action, lui, il a pour thème la désobéissance civile et comment vous la mettez en œuvre, en pratique, dans ce groupe Action.
C'est vraiment le point de départ. Le groupe Action, il est totalement conditionné par cette notion de désobéissance civile. On ne peut pas concevoir une action parce que le but, le leitmotiv de notre groupe, c'est créativité, radicalité, popularité. Et la mission de notre groupe, c'est de rendre visibles les campagnes d'attaque dans l'espace public. Donc le principe d'utiliser la désobéissance, c'est vraiment un outil politique. Si on n'utilise pas la désobéissance, nos actions ne peuvent pas être visibles puisque ça ne bouleverse pas l'ordinaire, ça ne renverse pas l'ordre des choses, ça n'attire pas l'attention. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est on transgresse la loi. Et c'est justement... cette intention de transgresser la loi qui choque, et c'est ce choc qui permet vraiment d'attirer l'attention sur des sujets souvent ignorés, des sujets mis de côté. Et c'est vraiment c'est la base même de ce groupe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une action si elle n'a pas la dimension désobéissante, sinon on va louper notre objectif qui est d'attirer l'attention.
Donc attirer l'attention, et pas à n'importe quel prix, si j'ai bien compris, et j'espère que tous les médias l'ont compris. D'ailleurs, on reparlera de l'action de la Samaritaine, mais il a fallu quelques minutes à Bernard Arnault lui-même, avec une petite raclette, pour aller enlever la gouache sur la vitre, bien entendu. Donc toute cette action est réfléchie, et ça vous prend un certain temps, je crois bien.
Oui, alors on a du mal à y croire, mais c'est du travail bénévole, et c'est des heures et des heures. Parfois, on peut vraiment éclater les 70 heures dans un mois parce qu'il faut tout concevoir, puisque justement, c'est une action qui est non violente, qui a des objectifs précis. Mais comme on utilise la transgression de la loi, on sait qu'on commet donc des infractions, qu'on a des risques. Il y a des risques juridiques réels, donc ça va de la simple amende au contrôle d'identité ou à la séquestration de liberté par la garde à vue. Donc on ne peut pas improviser cela. Donc déjà, il y a toute la dimension de faire venir les militantes et les militants dans de bonnes conditions, de pouvoir anticiper toutes les situations. On a une cellule juridique, donc c'est-à-dire qu'on se renseigne sur le niveau juridique d'engagement, sur le niveau financier d'engagement. On évalue tous les risques par rapport à la privation de liberté. Tout ça, déjà, on le consent à l'organisme pour que les activistes qui participent puissent le faire dans de bonnes conditions. Parce que si on n'anticipe pas ça, ça peut compromettre l'objectif de l'action. Ce qui est aussi très, très, très important dans cette dimension. J'ai perdu le fil.
Donc il y avait un premier fil, c'est prévoir à l'avance les risques, prévoir le risque juridique, mais c'est aussi, j'imagine, que l'action se déroule bien.
Voilà, c'est ça, c'est que l'action, l'action se déroule bien, et du coup, c'est des heures d'entraînement. Donc ça va être, par exemple, pour la Samaritaine, on a déployé une banderole de 8 mètres sur 20 mètres, à une hauteur de 8 échafaudages. En fait, on a monté l'échafaudage de travaux de 8 étages, donc il y a eu de nombreux repérages, il y a eu des entraînements réels, physiques, et il y a aussi une vraie technique pour plier la banderole pour qu'elle se déroule correctement. Et tout ça se conçoit en fait à l'avance. Parfois sur le papier, on se rend compte que ça fonctionne. Et quand on fait l'entraînement, on doit rattraper les choses. Et puis aussi parce que les circonstances extérieures du lieu qu'on vise, de l'objectif qu'on vise, évoluent. Donc régulièrement, on doit revenir sur la cible et on s'interroge sur la façon d'être le plus efficace, avec le moins de risques possible, le plus d'efficacité possible. Et surtout, anticiper toutes les situations qui pourraient arriver et qui pourraient compromettre le bon déroulé de l'action. Parce que si l'action ne se déroule pas telle qu'on le vise, l'effet attendu peut être vraiment amoindri, voire nul. Ça nous est arrivé de devoir annuler des actions parce qu'on circonstances extérieures ou parce que certains éléments n'avaient pas été anticipés. Du coup, on peut parler en général, c'est 2 à 3 semaines de travail très intense, de différents ateliers, de réunions. On travaille beaucoup aussi sur l'ordinateur, donc on conçoit des scénarios. Il faut aussi, il y a toute la dimension politique pour porter le politique et le message. On fait beaucoup de coalitions avec d'autres organisations, d'autres les élus également. Du coup, il faut pouvoir convaincre discrètement. Il y a aussi, pardon, j'ai oublié cette dimension de discrétion. On fait très attention pour ne pas dévoiler la cible, le lieu, le moment, et pour que justement on ne puisse pas être empêché que l'action se réalise. Et donc on doit créer des conditions très particulières pour pouvoir inviter des élus, inviter des représentantes et représentants d'associations, à la fois pouvoir leur donner suffisamment d'éléments pour qu'ils puissent préparer leurs fonds et participer sereinement à l'action. Et c'est vrai que tous ces éléments sont entièrement conçus, anticipés pour que ça se déroule le mieux possible. Et la plupart du temps, ça se déroule très bien, mais effectivement, c'est beaucoup de travail.
Donc, il n'y a pas que ATTAC dans ses actions altermondialistes. Et puis aussi, on en a vu beaucoup, évidemment, pour la défense de l'environnement et interpeller les gens sur l'écologie politique ces dernières années. Donc, Greenpeace, évidemment, qui est toujours mis en avant. Donc il y a beaucoup de coopération entre associations. Et puis un petit mot aussi sur la quantité de gens qui représentent ces groupes et ces collectifs.
C'est très difficilement estimable, en fait, parce que vous avez...
Pourtant, les RG nous écoutent, donc ils attendent cette information.
Mais en fait, ça va être très variable, parce que sur une action, vous allez avoir différents niveaux d'implication. Vous allez avoir le militant qui va arriver, qui nous dit qu'il ne veut pas prendre de risques. Et ce qu'on entend parfaitement, on peut tout à fait avoir le droit de ne pas avoir envie de faire 24 heures de garde à vue. Et là, on va avoir des rôles qui vont être très peu exposés, voire pas exposés du tout. Vous avez le militant qui va venir au débrief, qui va participer à l'action et qui va... Enfin, voilà. Et là, vous pouvez avoir entre certaines actions en France récemment, les soulèvements de la terre. Donc une alliance entre la Confédération Paysanne et XR ont rassemblé 400 personnes sur des cimenteries, ce qui est assez énorme. Mais derrière, ces 400 personnes n'ont pas toutes le même niveau d'engagement. Et voilà. Après, dire en France combien de gens sont désobéissants, je serais bien incapable de le dire et j'espère que...
Donc la bonne réponse, c'est peut-être qu'il n'y en a pas assez, tout simplement.
Il n'y en a pas assez, mais en revanche, la désobéissance, l'utilisation de la désobéissance, même si elle est vieille comme le monde, elle existe depuis qu'il y a l'oppression, depuis qu'il y a des puissants, en fait, puisque la désobéissance, c'est une réaction à la capacité d'être écoutée et entendue dans le politique. Mais c'est parce qu'on constate quand même, avec ces 30 dernières années de politique néolibérale, qu'il y a vraiment un affaiblissement démocratique. Donc, je pense que maintenant, les organisations, les associations sont obligées de se recycler pour porter leurs revendications. Et la désobéissance est une méthode vraiment efficace dans un gouvernement démocratique, puisqu'on joue avec les lignes, les limites. C'est suffisamment désobéissant pour attirer de l'attention, mais ce n'est pas non plus trop transgressif. Et donc, dans un gouvernement démocratique, ça fonctionne. Et étant donné que, justement, on est dans un climat liberticide, on le constate depuis... on va dire le climat terroriste, les émeutes de 2005. Et on voit bien qu'il y a un point de bascule quand même avec les mobilisations de la loi travail et puis la loi sécurité globale. Et donc, voilà, il y a face à cet affaiblissement démocratique et donc ce climat liberticide, la désobéissance civile, elle devient incontournable, ça devient un outil indispensable dans des revendications qui ont du mal à percer le barrage des médias dominants.
Et on reparlera des médias tout à l'heure pour montrer à quel point ils sont dominants, ces médias. Donc si on veut rejoindre le groupe Action d'ATTAC, il vaut mieux commencer par adhérer à ATTAC, tout simplement, militer normalement et puis... parfois, on reçoit un petit coup de fil et puis on se retrouve à 7h du matin en train de faire des choses étranges. Voilà. Mais il y a d'autres associations, évidemment, il n'y a pas qu'ATTAC. Si la désobéissance civile vous semble intéressante pour défendre l'écologie, ATTAC en fait aussi, évidemment, mais d'autres associations ont mis ça en point d'orgue, se réunissent parfois pour certaines actions globales, donc n'hésitez pas à rejoindre les acteurs de la désobéissance civile.
Si on peut les citer pour l'écologie, en gros, vous avez ANV, COP21... donc qui travaille énormément avec les Amis de la Terre et Alternativa, Greenpeace et XR, bien sûr.
Et quelqu'un qui a chanté la désobéissance civile dans le monde altermondialiste, en tout cas, c'est Kenny Arcana.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Et on est de nouveau sur 106.3 FPP et c'est encore l'émission Mode d'emploi.
Et nous recevons donc ce soir Justine et Yuli du groupe Action d'Attaque France qui viennent nous raconter l'événement de samedi dernier, l'action qui a eu lieu à la Samaritaine. Alors en quelques mots, qu'avez-vous fait samedi dernier ?
Alors samedi dernier, déjà on s'est levé et donc il faut voir que le rendez-vous sur place était à 6h. Donc pour un samedi, ça picote un peu. Et donc, à partir de là, deux groupes avaient été préétablis. Un groupe haut et un groupe bas. Le groupe haut a commencé son action en grimpant sur l'échafaudage et a donc déroulé la banderole de 8 mètres par 10 mètres, en fait, seulement. Non pas 20, mais voilà, nous restons modestes. Et pendant que la banderole était accrochée, parce qu'il faut déjà l'accrocher avant de la dérouler, bien évidemment, la deuxième partie en bas a été créer le scandale en répandant environ bien 4 litres de gouache sur les vitres de la Samaritaine et donc sur les deux vitres devant l'entrée et sur le fronton qui disait la Samaritaine. Et donc, comme c'était avec des extincteurs, on a une force de pression assez forte et on peut atteindre un logo qui est à 2 ou 3 mètres de haut. Et donc, à la fin donc de cet exercice de peinture, il y a eu une prise de parole de la part d'Aurélie Trouvé sur place.
Donc Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque France.
Voilà. Et après ça, nous avons déroulé la banderole de 8 mètres par 10 avec force fumigène et jet de billets, les billets étant des tracts d'attaque. C'était des billets de 80 milliards de dollars. Et au dos, vous aviez un texte qui expliquait l'évasion fiscale.
Donc beaucoup de gouache, mais finalement de la gouache qui a été choisie pour être facilement nettoyable et écologiquement assez neutre.
C'est du pigment et de l'huile.
Donc on
qui part à l'eau.
Et donc à cette occasion, vous avez décidé de nous proposer le nouveau chant des futurs manifs, vu que dans pas mal de manifs ces derniers temps, les gens ont repris encore à cause de Macron sur une chanson des années 80. Et là, nous allons écouter de part le groupe Action d'Attaque, une chanson qui s'appelle
La gouache.
C'est la gouache. Exclue.
Profiteur, par essence il est profiteur. D'où vient cette richesse? Ça n'inquiète pas la presse. En pleine crise, Bernard Arnault cumule à gogo des tonnes d'euros. Mais de toutes les affaires, c'est la gouache qu'exaspère. De la peinture à l'eau, pauvre Bernard Arnault.
C'est la gouache.
De toutes les affaires, c'est la gouache qu'exaspère. De la peinture à l'eau, pauvre Bernard Arnault.
C'est la gouache.
De la peinture sur la Samaritaine, il s'indigne, il balance, dissimule l'indécence. Il s'indigne, il s'en balance. Des milliards qui s'évadent de France. De toutes les matières, c'est la gouache qu'on préfère. L'occasion de dire tout haut, Bernard paye tes impôts.
C'est la gouache.
De toutes les matières, c'est la gouache qu'on préfère. L'occasion de dire tout haut, Bernard paye tes impôts.
C'est la gouache. C'est la gouache. C'est la gouache. C'est la gouache. C'est la gouache.
Il est en rage et lâche ses mercenaires. Ils montent tous au créneau
pas touche aux milliardaires, licenciement et aide publique. Pendant la crise, on lâche pas prise de toutes les affaires. C'est la gouache qu'exaspère, de la peinture à l'eau, pauvre Bernard Arnault.
C'est la gouache
de toutes les matières, c'est la gouache qu'on préfère. L'occasion de dire tout haut, Bernard paye tes impôts.
C'est la gouache.
Donc venons d'écouter C'est la gouache du groupe Action d'Attaque qui a mis justement de la gouache samedi dernier sur la Samaritaine. Et pauvre, pauvre Bernard Arnault. Il était tellement malheureux qu'il a été défendu par à peu près toute la presse. On n'a pas vu beaucoup de presse défendre l'Action. Je suis désolé, vous avez vraiment désobéi ce coup-ci. Alors évidemment, l'Action était là pour dénoncer l'enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise, mais on a eu des journaux qui, eux, sont venus défendre ces milliardaires et non pas les dénoncer. Et entre autres, Le Parisien, le premier à réagir dès dimanche. Un acte de vandalisme insensé, une opération qui laisse pantois. N'oublions pas que Bernard Arnault est propriétaire de ce journal, Le Parisien. Mais il n'a pas besoin d'être propriétaire pour avoir derrière lui Le Figaro, qui dit que dégrader un bâtiment, c'est seulement la manifestation de la connerie humaine. Hein, d'ailleurs, les mots ont été forts. Hein, bêtise, par Éric Nolot, grand ami d'Éric Zemmour. Abruti, voit-on à Décideur Magazine. Twitter, évidemment, a été un déferlement gigantesque des médias. Et puis, des hommes politiques et des femmes politiques. Peut-on citer peut-être les deux femmes qui sont à la tête des plus grands organismes élus, Mairie de Paris et Région, avec évidemment, on peut s'en douter, Valérie Pécresse qui défend Bernard Arnault comme un créateur d'emplois, mais aussi, c'est beaucoup plus surprenant pour Anne Hidalgo, qui il n'y a pas si longtemps était là pour célébrer la Commune de Paris, hein, on l'a vu, se mettre à côté de figures représentant les communards, et qui a dit quand même que aucun acte de vandalisme pouvait juste être défendre une cause. C'est absurde, je veux dire, il y a des phrases où on dit qu'elle n'a pas dû aller trop en fac d'histoire, je sais pas, voilà. Alors on peut comme ça continuer à l'envi, il y a énormément d'attaques qui ont été faites. On peut peut-être quand même citer la plus belle, Elisabeth Lévy. Hein, qui avait face à elle la porte-parole d'Attaque. Bravo Aurélie Trouvé d'être allée chez l'émission de Pascal Pro, Les Grandes Gueules, où Elisabeth Lévy a dit que quand même, exposer comme ça la tête de Bernard Arnault sur une banderole, c'est fasciste, c'est inadmissible, c'est une dégradation, c'est un appel au meurtre.
Oui, alors on a découvert qu'on était criminels pour de la peinture à l'eau écologique, hein, un jet d'eau et sa part. Mais effectivement, on a été assez surpris, ça a été un vrai raz-de-marée. On l'a découvert quand, finalement, il y avait une très faible couverture au moment où on l'a fait, probablement parce qu'un samedi matin, très tôt, etc. Puis on l'a organisé dans des conditions rapides, puisqu'il fallait réagir sur cet événement qui avait tant fait l'actualité. On a voulu saisir cette fenêtre médiatique. Ben, on l'a bien saisi, parce que du coup, la presse ayant loupé un peu le coche de couvrir l'Action nous a appelé, donc le standard d'Attaque a complètement flambé. Reuters a appelé, AFP voulait impérativement faire un billet, donc on a eu l'intégralité des médias qu'on voulu couvrir. Évidemment, la plupart sont montés au créneau et au garde à vous et ont vraiment été en étendard de protection pour le sacré, comme on dit. Bernard Arnault, c'est le totem, hein, de ce modèle économique. Et on a été assez surpris de découvrir plutôt le raz-de-marée donc de Twitter, puisque la Samaritaine, hashtag Samaritaine, hashtag LVMH, hashtag c'était lequel Bernard Arnault, ça a été le top tweet pendant 3 jours. Donc ça a vraiment créé l'actu et pris l'actu et a vraiment permis nous du coup de placer du revendicatif. Et ces prises de position de personnalités politiques et publiques, donc où ils nous ont tous condamnés comme des actes de vandalisme, comme du saccage, comme de la dégradation lourde. Alors justement, ce qu'on revendiquait, c'est voilà, on était sur le fil de la dégradation très légère, juste symbolique. Et ce qui est impressionnant, ça a été une levée de bouclier, une véritable armée, un déferlement. On l'a lu, donc plutôt la notion donc, de bloc bourgeois, d'arc républicain. On a touché au sacré. Il ne fallait pas qu'on touche à Bernard Arnault et au modèle qu'il représente. C'est comme si on s'en prenait en fait directement à eux. C'est comme si on remettait en question leur vie, leur conception de la vie, et qu'on a touché au symbole de la France, parce que LVMH, c'est le fleuron hein, de l'industrie du commerce français. Et donc, on a touché au sacré. Et c'est là où on s'est rendu compte que ça a vraiment touché au cœur. Ça a suscité un émoi. C'est comme si on s'en prenait à chacun, chacune personnellement. Mmh. Et c'est pour ça que chacun, chacune, ils sont allés de leurs commentaires et de leurs... ils ont tous pris position pour montrer leur fidélité, pour montrer leur loyauté. J'ai lu quelque part, on a vu une réaction féodale, mais clairement, ils ont tous vraiment réagi pour prendre la défense de leur chef. Mmh.
De leur chef et de leur symbole. Et c'est vraiment le mot qui a été utilisé. Vu que la Samaritaine est censée être le fleuron de l'industrie du luxe et que le luxe, c'est ce qui permet de créer de l'emploi en France. Ils en sont même allés jusqu'à demander la dissolution de l'association ATAC, ou certains d'enlever la seule subvention existante que reçoit ATAC, comme beaucoup d'associations d'utilité publique, d'avoir une réduction d'impôts pour les cotisations. Alors, c'est pas évident de répondre à une question pareille. Faut-il dissoudre ATAC ? Mais pourtant, le Figaro s'est amusé à la poser dans des sondages sur le Twitter.
Oui, il a fait un Figaro Live, c'est assez intéressant. Faut-il dissoudre ATAC ? Comme il y a eu la menace sur le syndicat l'UNEF. Et donc, ils se sont pris un beau tollé parce qu'il y a eu 76% de non. Donc, c'est, comme on l'a dit, le Figaro, bon, c'est un média, chacun son boulot. Ce ne sont pas des magistrats, ce ne sont pas des législateurs. Ils n'ont pas à remettre en question comme une discussion de comptoir. Hein, on est dans un bar et eux, ils décident à la place donc, des institutions qu'on peut remettre en question comme ça, à l'envie, au ressenti, un statut qui est reconnu par la loi. Hein, voilà, l'association reconnue d'utilité public, c'est un statut qui est reconnu par la loi, c'est ensuite décidé par décret. Voilà, donc on ne peut pas, sur un sondage tweet, remettre en question des symboles aussi forts qu'on a et des institutions qu'on a mises en place depuis des décennies. Donc, c'était assez impressionnant.
Alors, on peut analyser ça en disant que finalement, c'est une façon d'éviter soigneusement le fond du sujet. Et le fond du sujet, ce n'est pas savoir si la gouache se nettoie bien à l'eau, mais plutôt pourquoi. Pourquoi cette action a eu lieu. Et elle s'inscrit dans une campagne plus globale d'ATAC qui s'appelle dénoncer les profiteurs de la crise.
Oui, parce que, vas-y.
Oui, oui bah, c'est une campagne donc, qui a commencé en mars, il me semble, et qui a pour but de dénoncer les profits extraordinaires qui ont été réalisés pendant l'année 2020 par les plus grands milliardaires de France. Et donc c'est une période où la plupart des Français ont plutôt claqué du bec en espérant réussir à boucler les fins de mois. Tous ceux qui étaient intérimaires sont retrouvés au chômage. Tous ceux qui étaient au chômage partiel ont vu quand même leur moyen de survie, c'est-à-dire leur salaire, diminuer énormément. On a eu des cas de misère qui se sont déclarés, qui ne sont pas finis parce qu'on va vers une crise économique où l'État va se désengager de plus en plus du soutien apporté aux gens qui sont dans cette misère. Et en voyant tout ça, les milliardaires français se sont juste dit bah, « distribuons plus de dividendes que d'habitude et enrichissons-nous plus que d'habitude ». Donc on a les chiffres, je crois que Bernard Arnault, c'est 62 milliards cette année. On a Bettencourt avec L'Oréal, ça doit être 27 milliards. Et on avait Drahi aussi qui était un petit peu derrière. Lui, il n'avait fait que 7 milliards cette année. Et on sent que dans les réunions de milliardaires, il doit se faire un peu moquer.
Il y a Pinot aussi. Hein.
Pinot, oui, Pinot, 21 milliards.
Et en total, 200 milliards, en fait.
Et alors, pour donner une idée, 62 milliards, ça représente plus, bien plus que les dépenses des hôpitaux publics pour les salaires sur les 960 000 personnels soignants.
Oui.
Donc, quand on a l'impression, oh, il a gagné un milliard de plus. Non, il faut voir ce que ça veut dire par rapport à la réalité salaires de pas mal de monde.
Oui, il s'est enrichi de 50% de sa fortune pendant la crise, donc pendant que tout le monde se serrait la ceinture. Et effectivement, ça représente plus largement plus que la dépense d'un an pour les hôpitaux publics, dont 960 000 personnels soignants. Oui.
L'ensemble des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 22% de bénéfices de dividendes reçus en 2020.
Oui, oui, oui. C'est...
Vous avez l'impression.
En licenciant.
Oui.
En licenciant. Ou oui. Par exemple, le groupe LVMH, qui pourtant bénéficiait d'aides publiques telles que le chômage partiel, a quand même supprimé 8% de ses effectifs en 2020, donc créateur d'emplois en demi-teinte, hein, et a aussi versé 3 milliards de dividendes. Donc c'est ça qui est fou, c'est que donc c'est pas la crise pour tout le monde, et c'est ce qu'on dit, l'enrichissement indécent des milliardaires en ces temps de crise, ce n'est plus acceptable. Et c'est ça le but de cette campagne, c'est de taxer les profiteurs de la crise et pas sur le dos de cas social. On voit qu'il y a des réformes APL, la réforme chômage, la réforme des retraites, donc tout ça pour casser les droits sociaux. Et ce n'est pas possible, c'est un contraste qui est intolérable, qui est insupportable, sachant qu'il y a voilà, plus de 200 milliards cumulés rien que pour les milliardaires français pendant la crise. Dans cette campagne, ce qu'on propose et qui gagne clairement beaucoup, beaucoup de terrain dans l'opinion publique, c'est de taxer 1% le patrimoine des plus riches et aussi de mettre en place une taxe exceptionnelle sur les bénéfices effectués pendant la crise, notamment aussi les multinationales. On l'a vu, cette idée progresse avec la peau mondiale que va mettre en place le G7. Donc voilà, on ne peut pas tolérer de faire payer la crise aux gens ordinaires pendant que des personnes ne savent plus quoi faire de leur argent.
L'autre critique reçue par Twitter abondamment, c'est « vous attaquez le créateur d'emplois ». 3000 emplois apparaissent brutalement, paf, à la Samaritaine demain.
Alors 3000 emplois, déjà c'est 3000 emplois espérés, attendus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 3000 salariés à la Samaritaine. Je n'ai pas le nombre exact, mais voilà. Et ensuite, ce n'est pas des emplois caritatifs. C'est Bernard Arnault ne va pas donner du travail, ne va pas payer les gens par bonté d'âme, mais bel et bien parce que derrière, il va recevoir des bénéfices. Donc, mettre ça en avant, Bernard Arnault, en faisant ça, agit dans une attitude purement égoïste. C'est pas de la charité, ce n'est pas un bienfaiteur, c'est juste quelqu'un qui aime gagner de l'argent. Et pour ça, il a encore besoin d'avoir des gens qui travaillent pour lui, et il en aura toujours besoin.
Alors là, la critique posée, mais le temps passe et le sujet est très vaste, hein, mais s'il crée des emplois, on s'en moque de la raison, c'est aussi parce qu'il amène de nouveaux emplois. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? LVMH a diminué ses effectifs mondiaux de 7,8% en 2020 dans le monde, 13 000 emplois qui ont disparu de la planète, et donc 888 en France. Bernard Arnault était aussi un grand spécialiste du rachat de petites entreprises de luxe français, qu'il a globalement délocalisé à l'étranger pour l'essentiel. Donc si on essayait de faire un calcul de valeur absolue des emplois créés de Bernard Arnault sur une cinquantaine d'années, je pense qu'on serait largement négatif.
Oui, ben on se rappelle du film Merci Patron qui avait mis ça en avant et qui avait mis surtout le désespoir de ces gens, parce que mettre des gens au chômage, c'est les condamner.
Alors on va peut-être arrêter le sujet pour pouvoir passer à la dernière chronique, mais ce débat est très intéressant et on remercie Justin et Yuli de votre intervention.
Merci
et
à vous.
On va
Merci
terminer par la chronique d'Alex qui va à partir tout simplement des avions de chasse suisses, les F-35. Hein, le rapport va être immédiat, vous allez voir. Il va nous expliquer qu'est-ce que l'impérialisme.
Ouais. J'ai un petit problème de casque, hein. C'est comme le F-35, ça marche pas très bien. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc, la question que je me posais au départ, c'est qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? Et alors, plutôt que de partir dans une longue explication théorique, on va faire des exemples. On va faire deux exemples, un qui est ancien et un qui est moderne. Et alors, le premier exemple, c'est celui d'Athènes et de la Ligue de Délos. Donc, on revient vachement loin en arrière. Dans les années 490 et 480 avant Jésus-Christ, oui. Les victoires officiellement grecques, mais surtout athéniennes de Marathon et de Salamine, ont donné à la cité d'Athènes un prestige extraordinaire. Ces victoires prestigieuses ont permis de constituer... Ah ! Bon, fallait le dire tout de suite. Je comprenais pas, moi. Bon, bref. Ont permis de constituer autour d'Athènes une alliance regroupant des cités libres et déterminées à le rester. Les représentants de ces cités se réunissaient sur l'île de Délos et donc ont formé la Ligue de Délos, 477 avant Jésus-Christ. Chaque cité devait contribuer à l'effort commun en apportant des soldats et des trières, des trirèmes, des navires de combat. Les cités incapables de fournir ces forces militaires pouvaient verser des talents, c'est-à-dire des lingots d'argent. Le trésor ainsi constitué était entreposé à Délos. Au début, Athènes n'était que la plus puissante des cités de l'Alliance. Très très vite, elle s'est imposée en utilisant les forces de la Ligue à son avantage. L'apparence d'égalité entre les membres de la Ligue disparaît vraiment très clairement en 454 quand Athènes impose que le trésor soit gardé à Athènes, fait la paix avec l'Empire perse en 449 et utilise à partir de 447 les moyens de la Ligue pour fabriquer le Parthénon. Merci pour la Ligue de Délos, c'est ce qui nous a valu le Parthénon. En 440, il y a l'île de Samos qui a dit « on n'est pas d'accord ». Du coup, Athènes a lancé une grande expédition de la Ligue de Délos contre Samos et a gagné. Voilà. Comme on le voit à travers cet exemple, l'impérialisme, ça consiste pour un État de mettre d'autres États à son service en feignant de défendre l'intérêt général. Voilà. Périclès instrumentalise la solidarité des Grecs face à l'oppresseur perse pour financer la flotte d'Athènes et le Parthénon par les autres cités grecques. 1400 ans plus tard, sans transition, les États-Unis d'Amérique ont acquis un prestige extraordinaire en combattant victorieusement l'Allemagne et le Japon entre 1941 et 1945, en gagnant quelques batailles prestigieuses. Suite à ces victoires face à l'ennemi commun, et face à l'ennemi commun qui n'est plus perse mais russe, les États-Unis ont mis en place un système complexe d'alliances qu'ils dirigent. Côté européen, cette alliance a pris la forme de l'OTAN. Cette alliance atlantique coûte cher, il est donc attendu que les membres de l'alliance payent pour être protégés par les États-Unis. Depuis 1945, les gouvernements américains ont su utiliser des pressions amicales pour amener les États membres de l'Alliance à payer en achetant, par exemple, du matériel militaire américain. Certains États, comme la Fédération helvétique, ont su cependant échapper à cet hégémonisme américain. Il faut dire que la neutralité est une valeur fondamentale en Suisse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse n'a pas pris parti, mais n'a pas hésité à abattre des avions allemands ou américains qui ne respectaient pas l'espace aérien suisse. Et la Suisse disposait alors d'un matériel de pointe, le Messerschmitt Bf 109 allemand, qui était le meilleur avion de chasse allemand. Pour la Suisse, garantir sa souveraineté consistait donc à payer très cher pour disposer d'une armée moderne au niveau de celle des grandes puissances militaires du moment. Cette doctrine reste d'actualité. Depuis le début des années 2010, la Suisse cherche à moderniser sa flotte aérienne. Cela fait néanmoins polémique et le GSSA, que vous devriez connaître, Groupement pour une Suisse sans armée, a déjà réussi en 2014 à faire échouer l'achat d'avions de chasse suédois, les Gripen. C'est un peu le low cost de l'avion de chasse, mais c'était pas mal quand même. En 2020, les parties favorables à l'achat d'avions militaires ont réussi à faire passer une votation de justesse autorisant le Conseil fédéral, l'équivalent du gouvernement, à acheter 35 avions pour une somme rondelette de 6 milliards de francs suisses, 5,5 milliards d'euros en gros, pour choisir le meilleur matériel. Le Conseil fédéral autorise une agence spécialisée qui s'appelle Arma Suisse à établir un concours entre quatre appareils qui pourraient faire l'affaire. Deux avions européens, le Rafale, l'Eurofighter d'Airbus, et deux avions américains, le F-18 Super Hornet et de Boeing, et le F-35 de Lockheed Martin. Pour les entre guillemets spécialistes, il y a plein de vidéos sur YouTube, c'est passionnant. Deux avions se détachaient, le Rafale et le F-18, et un et le F-35 paraissaient condamnés d'avance. Et roulement de tambour, bon, je ne sais pas les effets. La Suisse a choisi le F-35. Alors pourquoi un tel choix? Le F-35 est présenté par ses concepteurs comme l'avion le plus moderne du monde. D'après Arma Suisse, il a de loin eu les meilleures notes et il serait le moins coûteux des quatre appareils. Pourtant, depuis 2008, cet avion a une réputation épouvantable. Il faut dire que depuis son lancement, le F-35 a accumulé les problèmes. Conçu comme un avion furtif capable de tout faire, le F-35 a surtout démontré ses limites et son coût de développement a explosé. C'est le Sénat américain qui, dans un rapport, a tiré le signal d'alarme. Une enquête sur le F-35 a dénombré 870 problèmes et défauts de conception sur l'appareil, dont 13 majeurs qui pourraient remettre en question la possibilité même pour l'appareil de remplir une mission. Petit florilège, rapidement. En cas d'accélération trop forte, le moteur peut exploser. Le logiciel est défaillant et, à force d'être modifié, est devenu trop volumineux pour l'ordinateur de bord. L'avion peut dysfonctionner en cas de foudre. Le système de visée de nuit dysfonctionne et l'armée américaine évite les missions de nuit. Les vols groupés peuvent aussi entraîner des problèmes parce que le logiciel n'arrive pas à gérer toutes les connexions. Bref, le F-35 est, et je cite le rapporteur du Sénat américain, « a piece of shit ». Alors pourquoi les Suisses ont acheté « a piece of shit » ? Eh bien, il faudra demander à Biden, qui est venu la semaine précédente le choix, et a expliqué aux Suisses ce qu'il fallait acheter. Voilà, pour la souveraineté suisse.
C'est donc la Ligue de Délos, façon Biden. Et on arrête l'émission, bien entendu, avec les remerciements de Claude à la technique rejoint par Ludo, nos invités Justin et Yuli du groupe Action d'Attaque. Il y avait aux chroniques Jean-Marc à distance. Il y avait Alex et Gaël aux chroniques. Et on finit par écouter sur le thème de c'est pas bien de casser. On écoute les Fatal Picard pendant 10 secondes avant la fin de l'émission qui est déjà finie.
Faut pas dire du mal des gens. Par exemple, faut pas dire du mal des docteurs. Parce que des fois on est malade et on en a besoin à la rigueur. Si on est de constitution robuste et qu'on y va pas souvent.